I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler.
Ah, c'est pas faux.
Non ! Non !
Mon pinaise, oui !
Pas ça ! Non !
Dites mon nom.
Non ! Non !
Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes.
Merci. Écoutez, je dirai pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip bip.
Bonjour, c'est Clémence, bienvenue dans Wheel of Series, le podcast signé Wheel of Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui. Comme on aime bien prendre le temps d'entrer dans les détails, on traite une série à la fois et on y consacre plusieurs épisodes. Ici, on explore ces séries dont tout le monde a entendu parler et sur lesquelles il y a tant à dire. Dans la dernière collection, par exemple, on s'attaquait à un monument du petit écran. Pendant 4 épisodes, on vous a parlé de The Office. Et puis parfois, on s'intéresse à des séries moins connues du grand public, mais qu'on a vraiment appréciées et qu'on aimerait vous faire découvrir ou redécouvrir. C'est le cas avec la collection qu'on lance aujourd'hui. C'est parti pour 2 épisodes sur la série Barry. Pour se livrer à cette analyse en bonne et due forme, j'ai le plaisir de retrouver Rafik Djoumi. Salut Rafik.
Salut Clémence.
Et Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane.
Salut Clémence.
Alors Barry, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Ou plutôt, qui est-ce que c'est? Eh bien, Barry, c'est un tueur à gages. Plus précisément, un ancien Marines reconverti en tueur à gages. Et Barry, il vit sa vie de tueur, il zigouille des gens, il touche de l'argent et il passe au contrat suivant. Il n'est pas super épanoui dans sa vie, mais bon, c'est comme ça. Oui, mais un jour, alors qu'il est à Los Angeles pour une mission, il participe par hasard à un cours de théâtre et là, c'est le déclic. Et s'il avait enfin trouvé un sens à sa vie, c'est décidé, il va devenir acteur. Ce pitch, à la fois intrigant et enthousiasmant, on le doit à 2 hommes. Tout d'abord, Bill Hader, acteur et auteur, connu notamment pour ses 8 saisons passées au Saturday Night Live, mais aussi Alec Berg, qui a participé à l'écriture et la production de nombreuses séries, dont Seinfeld et Silicon Valley. Tout commence en 2014, quand HBO signe un accord de développement exclusif avec Bill Hader. L'humoriste va créer et jouer dans une nouvelle série comique pour la chaîne câblée Premium. Alec Berg le rejoint et on apprend en janvier 2016 qu'un pilote a été commandé, suivi quelques mois plus tard par une toute première saison. Le 25 mars 2018, Barry débarque sur HBO et HBO Canada et pour une fois, le public français n'est pas à la traîne puisque la série est diffusée dès le lendemain sur OCS City. Le format est court, 30 minutes par épisode et très vite, le succès est au rendez-vous. Aux États-Unis, la saison 1 rassemble en moyenne 587 000 téléspectateurs par épisode. Avec la saison 2, c'est en moyenne 1,6 million de personnes qui se retrouvent chaque semaine pour suivre les aventures de ce tueur à gages en reconversion. Du côté des professionnels, Barry n'est pas en reste. Pour l'instant, la série cumule 99 nominations et 25 récompenses décrochées, dont 3 Emmy Awards. Et le compteur pourrait bien augmenter. Après 2 saisons de 8 épisodes chacune, HBO a renouvelé la série pour une 3e fois. Le tournage a commencé cet été et la diffusion devrait avoir lieu début ou printemps 2022. Les scénarios d'une potentielle saison 4 ont même également été écrits. Pour patienter en attendant ces nouveaux épisodes, on va revenir sur tout ce qui fait le sel de cette série. Et pour une fois, on va essayer de ne pas trop spoiler. Alors, la tradition dans Wheel of Series, c'est de commencer une nouvelle collection par un focus sur le générique de la série dont on va parler. Cette fois-ci, attention, ça va aller très très vite. Voilà, je vous avais prévenu, hein, c'est rapide, cette intro extrêmement courte, c'est celle du titre « Change for the World » de Charles Bradley. Et cette intro, donc, bah, elle marque le générique de chaque épisode.
Il y a un petit côté tarantinesque, on va le dire, hein, dans ce générique. Déjà par le choix musical qui est très marqué 70s, mais aussi par la calligraphie du titre. Et finalement, c'est peut-être pas hasardeux parce que on en reparlera, je pense, dans cet épisode ou le suivant, mais Barry est entre autres une série très cinéphile en fait. Et son pitch que tu as idéalement résumé finalement nous donne un peu le plateau en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir bien sûr de l'action, mais en même temps un recul sur cette action, un côté un peu auto-réflexif par le fait que ce tueur à gages se rêve en comédien.
Ouais, il y a aussi l'idée en fait que c'est le thème du personnage, c'est-à-dire que en gros j'ai l'impression qu'à chaque, faudrait vérifier ça hein, si ça se vérifie sur chaque épisode, mais à chaque fois en fait en gros que le titre apparaît et que la musique apparaît, il y a une espèce entre guillemets de d'entrée en scène du personnage, c'est comme si lui se voyait en fait comme un acteur et que c'était sa fanfare pour rentrer sur scène quoi. Et du coup ils en jouent un petit peu dans certains épisodes. Il y a par exemple, il y a un moment donné, il se retrouve à table avec un couple et le mec se trompe de nom, il lui dit mais il l'appelle je sais plus Harry ou je sais pas quoi, et l'autre il fait non je m'appelle, et là ça coupe et t'as le titre en fait et la musique Barry quoi. Et donc il y a tout un jeu avec ces trucs là, j'ai l'impression que ça défie, enfin si on doit vraiment un peu projeter dans 7 secondes de musique, j'ai l'impression que c'est un peu comme un coït interrompu, parce qu'en fait c'est pas un bon acteur Barry. Il veut être acteur, comme tu l'as expliqué, mais c'est pas un bon acteur, et ça la série elle est assez claire là-dessus quoi. Donc du coup à chaque fois il y a tout ce truc où il est interrompu en fait dans ce qu'il est censé représenter. Moi je le lis un peu comme ça, et c'est un truc qui m'est venu vraiment dans la saison 2 pour le coup, un peu plus que sur la saison 1, parce que ils aiment bien en jouer. Il y a carrément un épisode où on l'entend pas du tout, le générique, il y a le titre. On l'entend pas du tout parce que l'épisode est vraiment encore différent. On en parlera peut-être un peu plus tard tout à l'heure, là, mais voilà. Donc, il y a vraiment un jeu avec ça, pour, comment dire, ouais, pour définir, je pense, le personnage, quoi.
Il y a quelque chose de carré. Alors, pour le décrire à nos auditeurs, cet encart, en fait, pendant les 7 secondes, on voit uniquement le titre de la série Barry qui s'affiche en blanc sur fond rouge, de façon très massive. Hein, c'est une police de caractère qui est assez massive, en majuscule. Ça prend tout l'écran et c'est tout. Il n'y a rien, il n'y a pas de nom, il n'y a pas les noms des acteurs et des actrices, il n'y a pas les noms des showrunners. C'est vraiment une épure.
Qui peut être soit un gag, soit comment dire, une affirmation, soit même des fois un truc un peu dramatique, voilà, mais qui a différentes fonctions suivant comment tu le montes et comment tu le fais apparaître dans chaque épisode, quoi.
Et c'est intéressant parce qu'on en a parlé déjà dans les épisodes précédents, le fait qu'il y a de plus en plus de séries qui se passent d'un réel générique justement pour rentrer dans l'action tout de suite. Et là, ça se passe, il y a une scène pré-générique en général et après cet encart qui arrive.
C'est ça, et c'est assez. Bah de toute façon, c'est une série qui est très efficace hein, dans son fonctionnement, parce que ça pourrait être un peu quelque chose d'assez prétentieux, en fait, qui pourrait avoir des velléités, en tout cas, comme l'a dit Rafik. En fait, c'est très cinéphile, Bill Hader. Donc, ça pourrait avoir ces velléités-là, et en général, il les évite vraiment au maximum pour aller à l'essentiel, même s'il se permet des digressions vraiment intéressantes.
Au point de parfois brûler ses cartouches. Enfin, on lui a fait la réflexion plusieurs fois dans l'écriture des épisodes qu'il allait trop vite, en fait, qui passait directement à l'essentiel, en lui disant oui, mais quand même, dans l'idée d'une série télé, on fait traîner un peu les choses. Une enquête policière, par exemple, elle va durer plusieurs épisodes, quoi. Et lui, c'est non, cette détective, elle est censée être excellente, donc elle va trouver très vite. Oui, mais enfin, tu te grilles des cartouches, bah, c'est pas grave, on verra. Donc il faut de toute façon avancer. Oui,
ouais, alors justement, donc cette série, elle a beaucoup de qualités. Je pense qu'on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet maintenant et expliquer pourquoi, quelles sont ces qualités. Y a déjà sa dualité. C'est une série qui propose un mélange des genres qui est étonnant sur le papier. C'est pas quelque chose qu'on a déjà vu. Enfin, pas de cette manière-là.
On l'a vu au cinéma, en fait. C'est une comédie noire. Comédie, d'ailleurs, noire, qui peut surprendre par sa violence. Hein. Il y a cette anecdote, lorsque le pilote a été montré aux gens de HBO et aux gens qui travaillent avec HBO, il était prévu qu'il passe après la série Game of Thrones. Ce qui était très intimidant, bien sûr, pour Bill Hader. Et en fait, un des producteurs de Game of Thrones a trouvé que la série était quand même un peu dark. Et Bill Hader lui dit, mais vous êtes au courant que vous avez produit Game of Thrones? Donc, mais ça donne une idée, effectivement, du fait que, oui, quand il y a de la violence dans Barry, on est littéralement dans un thriller. Et ça, c'était une indication qui a été donnée dès le départ, notamment aux comédiens, par exemple, à ceux qui doivent mourir, etc. Et leur montrer des images, soit de films sérieux, soit carrément des images d'actualité pour que leur gestuelle soit clairement
De gens qui se font tirer dessus,
sont réellement tirés dessus, quoi. On va pas tricher avec avec ça, on va pas la glorifier, en fait, la violence, glorifier au sens en atténuant ce qu'elle représente. Donc on est en train de se marrer, mais quand Barry tue quelqu'un, tout d'un coup il y a un moment de stupeur, parce que mince, il y a du sang, enfin c'est crade, quoi.
Parce que Barry, c'est pas un très bon acteur, mais par contre c'est un très bon tueur. C'est ça l'idée même du film, et même la plupart des personnages qui gravitent autour de lui, qui savent que c'est un tueur à gages, ce qui lui le plonge dans un désarroi total, hein. C'est un personnage, dès le début il est en conflit avec lui-même, il est même en dépression, hein. C'est ça le principe du personnage.
Ouais, faut préciser une chose, donc ça on ne spoilera pas, hein, mais c'est que Barry, c'est un ex-marine, ouais, qui souffre de stress post-traumatique, il est revenu, je crois, d'Afghanistan,
et qui s'est découvert être un excellent tueur, en fait, dans le feu de l'action.
C'est ça. Il n'avait plus de sens. Il n'avait plus de sens à sa vie, puisqu'il n'était plus dans l'armée. Et il ne savait pas quoi faire de sa vie. On va y revenir, mais il a été pris sous son aile par un autre personnage, une sorte de figure paternelle, qui lui a dit « tu vas être tueur à gages » et qui lui a redonné du sens.
Fuchs.
Mais, mais en fait, c'est pas vraiment ça qu'il veut faire dans la vie. C'est pas ça qui l'anime profondément.
Et d'ailleurs, dans la dynamique qui s'installe entre le Fuchs et lui, en fait, c'est celle d'un agent et de son comédien. Parce que Fuchs est là pour lui décrocher les contrats et le chapeauter, en fait. Et lorsque son comédien devient un vrai comédien, c'est là où les problèmes commencent.
Et puis, enfin, juste pour pousser encore l'analogie, c'est lui qui lui prépare ses contrats, enfin ses trucs, mais c'est lui aussi qui récupère une certaine partie de la somme, du coup, un pourcentage, voilà. Mais c'est vrai que voilà, donc c'est un personnage qui est un excellent tueur, donc en fait c'est montré de cette manière-là. Et pour moi, là où c'est, comment dire, je pense que je sais pas si tu seras d'accord, Rafik, ou toi Clémence, mais si l'idée, en fait, que j'ai l'impression que ça ressemble pas mal à ce que les frères Cohen ont pu faire à leur début, en fait. Ouais. C'est vraiment, je sais pas si c'est une influence consciente.
Oui,
majeur, même s'il y a des épisodes
citée,
où...
Oui. Ouais. Raising Arizona, notamment Arizona Junior, est cité par Bill Hader assez fréquemment dans les,
voilà,
podcasts.
Et les frères Cohen, c'est des gens qui ont fait des comédies, et surtout les comédies de leur début, c'était des comédies assez grinçantes, en fait, assez noires, et assez, et le ton était un peu, comment dire, il était très contrôlé, en fait. Et là, il y a la même idée, je pense, et on n'a plus tellement l'habitude, parce que ce qui est très intéressant dans une série comme Barry, c'est de la comparer aux autres séries qui se font en ce moment, et de se dire que il peut se permettre d'avoir ce ton extrêmement précis, précisément parce que les autres séries généralement appuient sur les boutons de la comédie quand c'est censé être une comédie pour que ce soit clair, appuient sur les boutons de la violence quand c'est censé être noir, voilà, comme Game of Thrones, ce genre de choses, quoi, et surtout sur HBO où on peut se le permettre, en fait. Donc parce que c'est même ce qui est attendu de la chaîne, en fait, parce que c'est une chaîne câblée, et que c'est sur ça qu'ils se sont fait connaître, en fait, sur l'idée qu'ils proposaient des séries, des films, en fait, que les chaînes de télé habituelles ne proposent pas du tout, quoi. Donc ce contrôle, et c'est assez marrant parce qu'il assume, du coup, je trouve, à la fois l'absurdité de son concept et à la fois, en fait, le sérieux de l'écriture psychologique, en fait, de ces personnages. C'est-à-dire que quand il s'agit de faire certaines scènes d'action, on est mais dans le fantasque le plus absolu. On touche à l'absurde assez régulièrement, quoi. Et c'est ce qui lui donne un vrai cachet, moi, à mon avis, unique, quoi, qui la rend vraiment différente.
Et à côté de ça, en parallèle de l'action, mais il y a tout l'aspect comique de la série qui est aussi extrêmement bien traité. C'est-à-dire que Les personnages, on va y venir, hein, et tous les personnages qui gravitent autour de Barry, c'est tous des figures hautes en couleur et qui apportent chacune leur part d'humour à l'histoire et la manière dont elle est racontée.
Ben déjà, il y a toute la troupe de comédiens qui, par essence, sont de la matière comique, parce que c'est que des personnages auto-centrés qui sont incapables de voir qu'ils ont un véritable tueur parmi eux. Alors, on peut le dire parce que c'est le premier épisode, mais la raison qui va le pousser à devenir comédien, c'est qu'en fait, il se fait passer pour quelqu'un qui prend des cours de théâtre parce que son contrat, donc c'est un gars qui fait du théâtre, et donc il cherche à le filer. Mais du coup, il se retrouve sur scène à devoir jouer. Et évidemment, il joue comme une chaussette, et tout le monde, enfin le prof de théâtre lui fait clairement comprendre que il l'intéresse pas, il le veut pas dans son cours. Et en fait, il pète un plomb. C'est-à-dire que tout d'un coup, il fait une confession. Il dit qui il est vraiment. Et sa confession, en fait, tous les comédiens la prennent pour une scène et se mettent en gros à l'apprécier et c'est là qu'il devient un élève récurrent. Donc déjà ça part de la base d'un groupe de comédiens tellement centré sur le nombril qu'ils voient même pas que la personne est en train de leur dire la vérité. Oui, il tue des gens quoi. Et donc il y a ce ressort comique là qui est essentiel. Et puis après, le côté fantasque dont Stéphane a parlé, c'est plus dans les portraits de gangsters que par la force des choses, il est obligé de fréquenter, notamment les Tchétchènes qui sont assez fameux. On en parlera peut-être des personnages en plus en détail.
Oui, oui, tout à fait. On va y revenir. Et c'est vrai que voilà, le toute la partie qui traite du théâtre et du monde du cinéma de ces acteurs en devenir en tout cas qui ne rêvent que de ça, c'est finalement la face plus claire, plus légère de l'histoire, et ça vient apporter un contrepoids à toute la noirceur. Mais ce qui est intéressant, c'est quand justement Barry se fait rattraper par son côté obscur et que il cherche sans cesse à essayer de s'éloigner de ça. Son but dans la vie, c'est vraiment de devenir acteur et de mettre son passé de tueur à gages derrière lui. Ouais. Mais ça revient en permanence, évidemment.
Et souvent, dans une série dite d'action, parce qu'il y a de l'action dans Barry, on attend ces scènes-là, on attend ces scènes d'action. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ces scènes d'action, elles viennent comme se mettre en travers de ce qui commence à nous intéresser. C'est-à-dire qu'on commence à s'intéresser au quotidien et aux petites choses et à ses rapports avec la troupe de théâtre, etc. Et quand l'action le rattrape, parce qu'il est obligé de faire face à tous ces problèmes et les mafias, etc., en fait, il y a presque une forme de frustration. Ah merde, on va encore devoir avoir une fusillade, alors qu'en fait, il était presque sur le point de dire à la nana ce qu'il pensait d'elle, etc. Bon, ça c'est pas commun non plus de refuser le fun de l'action, et en plus d'une action particulièrement bien foutue dans le cas de Barry.
Alors j'avais lu justement une analyse qui comparait Barry à une sorte de négatif de Breaking Bad. Breaking Bad, on a ce personnage de Walter White qui va connaître sa montée en puissance et qui passe de simple prof de maths à baron de la pègre et qui va révéler sa noirceur au fur et à mesure des saisons. Alors que là, c'est un peu l'inverse finalement. Barry, à la base, il vient de ce milieu très très sombre, et puis petit à petit, il essaye de devenir de plus en plus humain.
Je pense que c'est intrinsèquement lié à la personnalité de Bill Hader. En fait, c'est-à-dire que Bill Hader, même si on va parler de lui vraiment dans le second épisode, comme on le fait d'habitude en général, puisqu'on revient sur les créateurs et sur les acteurs, Bill Hader, c'est quelqu'un qui a quand même un physique assez commun. C'est-à-dire, c'est pas un beau garçon forcément, en tout cas selon les standards.
Ouais, c'est même plutôt un mec, faut le dire, moche. Enfin, il est parfois.
Moi, je le trouve pas moche. Je trouve qu'il a beaucoup de charme, mais
de la déformité. Non, mais je dis ça. Moi, je l'adore, mais enfin, ouais. Il a fait une parodie de Twilight pour le Saturday Night Live qui s'appelait Firelight, dans lequel il jouait un Frankenstein. Il avait presque pas besoin de maquillage, quoi. C'est-à-dire, il a quand même un faciès extrêmement carré, très dur. Il est très grand. Il a les épaules qui remontent trop. Enfin, il a une démarche comme ça, un peu étrange, mais il en joue. Hein, dans son comique, il joue beaucoup de ce physique.
Il a surtout ce que tu remarques, c'est qu'il a un œil un peu mort ou ce genre de choses. Mais en fait, le truc que je voulais dire par rapport à ça, c'est que c'est quelqu'un, moi je trouve qu'il a plus un physique, vraiment il a un certain charme et un physique commun plus que je veux dire de leading man, comme on dit, en fait, voilà. Et tout le gag, en fait, de quand il a pitché justement à Alec Berg, en fait, l'idée d'un tueur à gages qui devient acteur, Alec Berg lui dit, mais je comprends pas le truc. Il lui dit, mais c'est moi qui le joue. Et là, en fait, il fait, ah ouais, d'accord, je comprends mieux. Et du coup, tout l'aspect, parce que faut savoir que c'est quelqu'un qui est assez brillant, hein, Bill Hader, mais qui est capable de par exemple, il a des talents d'imitateur assez dingues. Si vous regardez, en fait, certains épisodes de Tonight Show, en fait, où il apparaît, il imite. Il y a un truc qui me fait beaucoup rire, c'est quand il imite le Tonton de l'Empire contre-attaque, et il le fait super bien, quoi. Et il imite Schwarzenegger, ce genre de choses. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a énormément de crises d'angoisse quand il s'agit de monter sur scène, ce genre de choses. Donc ça nourrit automatiquement le personnage, ça se voit, en fait.
Bien sûr, il le porte, l'anxiété.
Voilà, c'est ça. Et du coup, ça définit, en fait, le personnage de Barry. Ça explique pourquoi c'est quelqu'un qui a absolument un sang-froid incroyable quand il est capable de tuer, c'est-à-dire vraiment de se déconnecter même de sa propre humanité. et comment d'un seul coup, en fait, l'idée même que de devenir acteur, ça le reconnecte à qui il est censé être et il n'y arrive pas. C'est pas un bon acteur, justement, parce que c'est ce que lui disent les autres. Ils lui disent, tu ne te connectes pas assez à ton émotion, en fait, à qui tu es à l'intérieur, quoi. Et du coup, voilà, c'est ça qui rend le truc intéressant. Et ce qui est marrant, en fait, c'est vrai ce que tu disais, hein, sur le fait que toute la troupe d'acteurs, c'est finalement le truc un peu marrant. Mais des fois, c'est régulièrement inversé, en fait, dans la série, notamment dans la saison 2. Il y a un moment donné où, en fait, il a une relation romantique avec une des actrices, en fait, de la troupe. Et elle a un passif assez noir, en fait, où elle a été femme battue, etc., etc. Elle était battue par son conjoint quand elle avait 19 ans. Et, en fait, ils doivent écrire sur leur propre parcours. Et elle, ça devient assez sombre, en fait, la façon dont elle doit se confronter à son ex, de la façon dont elle était. Elle s'auto-persuadait qu'elle l'avait envoyé chier, en fait, à l'époque, et c'était pas le cas. Et mine de rien, ça, c'est pas du tout traité avec du humour, en fait. C'est traité avec, un certain... et c'est même un arc, en fait, pour elle. C'est-à-dire, d'un seul coup, c'est ce qui lui permet à elle de se faire reconnaître par son propre agent, qui se dit, ah, mais en fait, elle est un peu plus profonde que les petits rôles qu'on lui file à jouer dans des séries où elle apparaît en fond de cadre, et tout ça, etc., etc. Et ça c'est de moins en moins drôle, en fait, plus ça avance, en fait. Même si, bon, évidemment, ça reste, il y a quelques trucs à côté qui fonctionnent, quoi. Donc c'est assez, c'est là où, en fait, le ton est très intéressant, c'est que c'est pas compartimenté, en fait. C'est vraiment un ton qui est diffusé quand lui, il a besoin, en fait. C'est-à-dire Bill Hader et Alec Berg se disent à quel moment on a besoin d'être sérieux, à quel moment on a besoin d'être drôle, à quel moment ça fonctionne. Et voilà, il le jauge suivant, en fait, c'est-à-dire suivant, même si les personnages sont censés être plus comiques généralement, bah on le fait quand même, on le traite de manière sérieuse quand on doit le traiter de manière sérieuse, et tout le ton est vraiment comme ça. C'est ça qui le rend vraiment fort, quoi.
Et souvent dans une série, les personnages sont par la force des choses archétypaux, parce qu'on va les retrouver d'épisode en épisode, et il faut qu'on sache qu'on soit familier de qui ils sont et quelles sont leurs limites. Mais là, dans le cas de Barry, on a, en fait, c'est, on complexifie le jeu parce qu'on a des comédiens qui sont pas censés être hyper bons, parce que justement, ils sont tous un peu galériens et c'est pour ça qu'ils viennent prendre des cours, qu'on va faire jouer par d'excellents comédiens parce que justement, c'est super dur de faire le mauvais comédien. Donc, Bill Hader étant quelqu'un qui est familier de la scène ciné et théâtre de Los Angeles, il a su vraiment orienter le casting. La personne dont tu parles, c'est Sarah Gottberg, par exemple, qui a jamais vraiment eu une carrière qui a décollé, quoi, mais qui est une nana hyper professionnelle, quoi. Elle est capable de te faire des monologues de 50 pages face caméra sans aucun problème, quoi. Et en même temps, quand elle joue des scènes Shakespeare, etc., elle joue sensiblement pas bien. Enfin, tu vois, donc il y a tout un truc, je pense, auquel le public a été sensible, qui est justement le fait que ces personnages, tu sais jamais trop où ils vont t'emmener, en fait, dans la scène suivante.
Et alors, justement, à propos des personnages, donc là, on parle du personnage de Sally Reed, cette actrice qui est le love interest, ouais, de Barry. On spoil rien, hein, ça, c'est dès le premier épisode aussi. Et donc, qui a effectivement ce côté actrice qui en veut, qui va essayer, mais qui se prend des portes. En fait, elle passe des tonnes d'auditions et à chaque fois, il y a quelque chose qui foire. Mais il y a aussi un personnage que moi, j'adore, c'est un de mes personnages préférés, c'est Jean Cousineau, qui est le prof de théâtre et qui est lui-même un acteur sur le retour. Et il y a cette scène géniale, je crois que c'est dans le quatrième épisode de la saison 1, où on le voit qui lui-même va passer une audition pour dire une pauvre ligne, c'est vraiment un job de figurant. On sent qu'en plus, il va même pas l'avoir et on se dit, ok, ce mec qui est censé avoir une prestance, qui leur donne des cours, en fait, il réussit pas mieux que les autres. Et il retourne dans sa salle de classe avec ses étudiants et là, tout le monde lui fait une standing ovation, l'applaudit parce que c'est lui qui vient leur apprendre ce que c'est que le métier.
Et qui est en plus magnifiquement interprété par Henry Winkler, on reviendra aussi sur lui. Il y a un truc marrant aussi, c'est que il a écrit un bouquin, ce Cousineau, qui s'appelle Hit Your Mark and Say Your Line, donc gardez vos repères et dites votre réplique, qu'en fait Barry pourrait prendre à double sens. C'est-à-dire Hit Your Mark parce que effectivement un comédien sur scène, enfin sur une série ou un film, il a des marques au sol et dont il doit auquel il doit faire attention. Quand quand il délivre son dialogue, mais en fait c'est un, il fait des hits en tant que tueur à gages Barry. Donc il dit, tu remarques, c'est tue ta cible en fait, tue ta cible et joue la comédie, c'est au sens quand les flics débarquent, tu dis ça, tu vois. Donc finalement il y a tout un jeu aussi, qui est pas nouveau, hein, mais qui est pas forcément habituel dans les séries télé, c'est un truc qu'on voit plus souvent au cinéma, qui est ce jeu de masque perpétuel. En fait, Barry, il sait pas qui il est, il sait pas quel masque il porte. Est-ce que finalement l'époque où il était où il est tueur à gages n'est pas un rôle qu'il a, dans lequel il s'est plongé, quoi.
Après, il y a peut-être un élément dont il faut parler. Enfin, on en a parlé un petit peu quand on parlait des scènes d'action ou ce genre de choses, mais il y a assez, comme je disais, en fait, c'est quand même une série assez carrée. En fait, dans son fonctionnement, si ce n'est que justement, elle joue vraiment sur le ton, en fait, et vraiment parfois à la scène près, quoi. Et il y a des moments complètement. Enfin, moi, j'ai l'impression que la série s'est fait aussi beaucoup connaître, en fait, grâce à cet épisode-là. C'est un épisode dans la comment dire saison 2, cinquième épisode, qui est un épisode mais qui part en sucette, quoi. C'est-à-dire voilà, et c'est assez représentatif parce que ça arrive fréquemment dans la série, hein, ce genre de choses. Mais généralement, c'est vraiment lié à quelques scènes. Là, c'est l'épisode entier. Qui est une digression, hein, en fait, hein, puisque ça, on pourrait presque dans l'intrigue,
c'est un stand-alone, ça, au voilà. Sens où on pourrait il pourrait disparaître de la saison sans que ça perturbe la narration, parce qu'en fait vraiment c'est un épisode concept, en fait.
C'est un épisode concept, et tout ce qui se passe, en fait, qui est lié au reste de la série est encapsulé dans cet épisode. C'est-à-dire que, en gros, à part qu'il soit un petit peu mis en comment dire préparé, en fait, dans l'épisode d'avant, il y a l'idée, en fait, que pour à un moment donné, Barry, suite à certains de ses crimes, en fait, se fait attraper par la police, et le flic en question lui dit « Ma femme vient de me quitter, si tu veux que je te laisse partir, tu vas tuer son amant. » Et donc, en gros, l'amant en question, c'est un prof de taekwondo qui est interprété par Daniel Bernard, qui est un acteur, en fait, de série B à la base dans les années 90, mais qu'on a vu dans des gros films comme, par exemple, Matrix Reloaded, où il joue un des agents. Et c'est un vrai artiste martial accompli, etc., etc. Et donc il va le voir, Barry va le voir et lui propose un deal. Il lui dit « Je suis censé te tuer, mais si tu acceptes de partir à Chicago et que je te finance un peu pendant un an, que tu disparais pendant un an, je pourrais faire croire aux gens que je l'ai fait et tu t'en sors. » Parce que Barry, à ce moment-là, il ne veut vraiment plus tuer quelqu'un, quoi. Et l'autre, en fait, l'envoie. Enfin, il est à moitié stone en plus, mais il lui envoie un kick. Et en fait, ça commence littéralement un épisode entier où ils vont se courir derrière, plus enfin il y a sa gamine qui arrive au milieu qui a un espèce d'animal sauvage qui a des capacités physiques surhumaines,
qui fait du taekwondo aussi, mais ouais. Pas que
Barry finit par avoir le dessus alors que vraiment on n'y croit pas, enfin parce que le type qu'il est en face de lui est super dangereux, mais il finit par avoir le dessus, et au moment où il s'en croit sorti d'affaire, déboule effectivement la gamine de ce prof de taekwondo qui apparemment a été élevé à la dure et qui est encore pire que son père et qui lui défonce la gueule comme c'est pas permis. Et effectivement, elle se comporte comme un animal sauvage. Enfin, elle grimpe sur les arbres à toute berzingue. Elle mord comme des chiens, comme une chienne, quoi.
Ouais, elle a passé des heures, voilà, sur le toit.
Mais ça, c'est un truc qui s'est fait. En fait, Bill Hader racontait que quand il était sur la première saison, il avait rencontré une famille de cascadeurs, un père et une mère qui étaient cascadeurs, et qui étaient super fiers de leur gamine parce qu'elle faisait plein de trucs, et il lui avait montré une bande démo comme ça, juste pour le plaisir, quoi. Et il avait vu effectivement les exploits de cette gamine, et c'est resté dans un coin de sa tête. Et quand il a écrit cet épisode-là, où il était question effectivement que Barry se fasse une baston avec ce gars, c'est là qu'il a eu l'idée de se dire, et si la gamine déboule, quoi. Et donc il a littéralement écrit ce moment délirant pour cette petite fille qui est juste hors norme. Enfin, je veux dire, le problème, en fait, c'est que cet épisode, en fait, beaucoup de gens ont découvert cet épisode sur les conseils d'amis sans avoir vu le reste de la série, et Bill Hader le regrette un peu parce que l'épisode, effectivement, il se regarde tout seul, c'est un épisode plein, et il est complètement hallucinant, quoi. Cette gamine, elle marque tout le monde, mais en même temps on a l'impression, du coup, que c'est ça la série, que c'est ce gros délire complètement viscéral, alors qu'en réalité c'est plus dans la continuité qu'il faut le découvrir. C'est-à-dire, on est en train de suivre un récit et tout d'un coup il y a cet arrêt avec cet épisode complètement dingue, on se dit mais qu'est-ce qui vient de se passer là, quoi. Mais jusqu'au bout, hein, parce que la fin de l'épisode dans le supermarché,
je pense que c'est aussi une référence à Arizona Junior, ouais, hein, pour ouais, le clairement. Coup, assez marqué, quoi. Oui, oui, c'est complètement, voilà. Et c'est extrêmement bien filmé. C'est-à-dire pour une série télé, parce qu'il faut quand même avoir le temps, en fait, de placer, en fait, les plans et conceptualiser chorégraphier, en fait, des combats comme ça et ne pas, en fait, s'empêcher de partir un peu en cacahuète, parce que c'est vraiment, en fait, c'est à la fois très simple, très réussi et très ambitieux, malgré tout, quoi. Parce que c'est, encore une fois, dans le reste, dans la logique, en fait, de la série en soi, ça reste très contrôlé, quoi. Et du coup, ça, c'est un épisode réalisé par Bill Hader. Ouais. Et voilà, ça fonctionne assez bien. Donc c'est quand même c'est vrai qu'il faut certainement pas commencer par cet épisode-là pour découvrir la série, parce que c'est pas du tout en fait ce que la série est vraiment, quoi. Mais par contre, c'est dans la logique de la série quand même, malgré tout, puisque en gros c'est payant quand on a vraiment regardé ça
on a des échappées
dans la continuité, ouais. Quoi.
Et non seulement on a des échappées comme c'est le cas ici, mais aussi donc c'est jamais là où on l'attend, en fait. Et le plaisir, il est là. Quand Stéphane dit que c'est bien filmé, oui, c'est clairement. Enfin, moi, je connais à la télévision de ces dernières décennies, il n'y a pratiquement que la série Fargo qui puisse rivaliser avec Barry en termes de craft. C'est-à-dire vraiment, on a plus l'impression que ça a été fait pour le grand écran que pour un écran de télé, tellement justement les cadres sont précis, toujours incroyablement équilibrés. Mais ça, on expliquera pourquoi justement par rapport à Bill Hader. Le fait est que ça nous surprend toujours. Et par exemple, sur cet épisode-là, le début de la baston avec le père, le chef opérateur était parti pour suivre les combattants à travers la baraque, parce qu'évidemment, ils se foutent des coups et passent d'une pièce à l'autre, etc. Et c'est Hader qui s'est dit « Non, non, on va pas faire ça. On va rester sur place et c'est eux qui vont rentrer et sortir du champ. » Donc en fait, on entend des trucs qui sont en train de se défoncer la tronche dans la pièce d'à côté, et tout d'un coup il y en a un des deux, tu vois, qui va passer à travers la porte, et ça c'est plus du type de filmage qu'on pourrait trouver dans un film entre guillemets de festival Sundance, plus qu'un film d'action où au contraire il faudrait suivre l'action à tout prix.
C'est d'ailleurs ce qu'il fait dans la fusillade finale de la fin de saison 2, hein. Il y a une fusillade où d'ailleurs il joue pareil, encore une fois, sur ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'en gros, il y a trois assaillants, par exemple, dans la pièce. Barry rentre dedans. En fait, la caméra se concentre sur un des assaillants. Mais on sait, en entendant les coups de feu, qu'il a tué les deux autres aussi. Et en fait, voilà, c'est tout un tas de trucs comme ça, un tas de jeux où tu sens, oui, que effectivement c'est son idée, c'est vraiment d'être réalisateur plus que comédien.
Tu as parlé tout à l'heure des prix qu'il a reçus. Alors il y a une grosse liste de prix qu'il a reçus, mais la liste de nominations, elle est juste ahurissante, oui. Hein, sur 3 ans. J'ai pas compté, mais il y en a 50, quoi. Et des trucs de prestige. Et dans ces nominations, il y a beaucoup de trucs de type Critics Choice Award, Directors Guild of America, etc. Donc vraiment des, comment dire, c'est une série qui plaît aux gens qui font des séries, en fait, Barry, parce que ils voient le craft et l'exigence en termes d'écriture, bien sûr, mais aussi en termes de mise en scène, ce qui est quand même moins commun dans les séries télé.
Alors après la mise en scène, il y a deux derniers personnages dont je voudrais qu'on parle rapidement avant de conclure. Ces personnages, moi je les adore, c'est les deux mafieux tchétchènes, donc Goran Pazar et No Hank, qui sont à eux-mêmes, et eux aussi incarnent toute une partie comique, alors que c'est censé être des personnages justement très dark, c'est des mafieux. À la base, ils embauchent Barry pour un contrat. Ça, c'est au tout, tout début de la première saison. Et puis ensuite, il se passe beaucoup de choses. Mais en tout cas, ces personnages qui sont censés incarner des grands méchants présentent une toute autre facette. Ils sont hilarants.
Oui, en fait, c'est des personnages qui eux aussi viennent d'un certain type de cinéma. Bon, on parlait de Tarantino tout à l'heure, mais on pourrait parler de Shane Black également. Ils n'auraient pas dépareillé dans un scénario de Shane Black. Il faut noter néanmoins que pour ce qui est de Noho Hank, il n'était pas forcément prévu ce perso, puisque il était question qu'il se fasse buter dès l'épisode 1. Mais quand ils ont vu Anthony Carrigan, donc cet acteur irlandais, partir dans son délire, en fait, voilà, ils ont eu des scrupules, ils se sont dit non, il faut le garder, ce gars, il est pas possible. Quoi. Enfin, et donc c'est devenu un personnage central assez vite.
Faut le dire, donc c'est un personnage, c'est le bras droit du chef de la mafia tchétchène, mais c'est un gentil, en fait, lui, il a pas envie envie de faire du mal aux gens. Il est toujours très positif, très souriant, toujours en avec fait, la voilà. phrase.
Mais non, mais en organisant des meurtres quand même. C'est-à-dire, ouais. il organise que des choses horribles, mais comme si c'était une espèce de JO de Club Med, quoi. Genre, on est tous copains, c'est trop génial.
Ouais, puis c'est, enfin, déjà, il a un physique quand même extrêmement atypique. C'est-à-dire ouais. qu'il est fantomatique, il lui manque des sourcils, il a le crâne rasé, donc l'acteur est quand même assez, comment dire,
il a un physique identifiable clairement voilà, et très qui marquant, se détache
quoi.
Du lot.
Voilà et du coup il a une voix aussi un petit peu comment dire pas fluette mais disons vraiment douce quoi voilà et en fait il joue avec cette notion là c'est-à-dire que mais c'est le principe en fait de encore une fois de pas trouver la série là où on l'attend en fait c'est-à-dire que en gros un personnage des personnages de tueurs tchétchènes bah tu sais tout de suite que c'est censé être des badass des machins des trucs comme ça etc.
Ils ont la mâchoire serrée voilà, ils parlent avec une grosse voix
ils sont patibulaires et t'as notamment en fait ça prend vraiment des proportions dans la série parce que à un moment donné Barry fait un deal avec Hank en lui disant en gros ok je vais entraîner tes gars pour en faire une armée quoi et les gars ils sont tous des bras cassés quoi ils savent pas tirer ils savent pas machin et ça donne des scènes un peu voilà il y en a un qui s'en sort qui est vraiment pour le coup qui se révèle devenir un meneur d'hommes quoi parce que bah il sait manier les armes ça devient instinctif en fait chez lui quoi et voilà mais sinon les autres c'est vraiment et c'est d'ailleurs c'est pas forcément celui qui a l'air le plus patibulaire encore une fois c'est celui qui a l'air le moins menaçant en tout cas de la bande quoi et voilà c'est l'idée en fait ce personnage là il est représentatif de l'idée que la série en fait, t'emmènes vraiment dans des endroits que tu t'attends absolument
exactement.
Pas.
Exactement. Effectivement, par rapport au Tchétchène, il y a cet épisode, je crois que c'est le troisième hein, de la première saison, où ils font venir ce méga gros tueur directement de Tchétchénie.
C'est la star des tueurs à gages.
C'est la star des tueurs à gages, une légende vivante, Stovka, qui est censé buter donc Barry et Fuchs, quoi. Et toute la mise en scène, en fait, te prépare à un personnage absolument horrible, enfin l'enfer sur terre. Et ce qui est pas prévu, c'est qu'en fait, il est dépressif. Quoi. Il est dans le même cas que Barry, oui. C'est-à-dire comme en train de se dire que c'est fini, faut
en
qu'il
fait,
arrête.
Quoi. C'est Barry, mais 30 ans plus
voilà,
tard.
Exactement. Et il est joué par Larry Hankin, qui est un mec qui a une gueule absolument incroyable. Et bref, j'en dis pas plus pour révéler la surprise. Mais encore une fois, avant d'enregistrer cette émission, on s'est promis de ne pas spoiler parce que c'est vraiment une série qui fonctionne beaucoup, beaucoup sur le retournement de situation, la surprise. Ça va là où on l'attend pas. Et ça, je pense que c'est important aussi par rapport au succès qu'elle a pu avoir sur HBO de rappeler que la constitution du public d'HBO à l'origine c'est un public de middle class voire upper class qui justement ne veut pas qu'on lui généralement qu'on lui serve les trucs sur un plateau et qui du coup apprécie d'être surpris et pris à revers etc et je pense que ça a beaucoup joué dans son succès progressif
effectivement c'est quelque chose qu'on avait déjà abordé dans la collection sur les Sopranos et où on disait ça très clairement. Tout, on fait confiance à l'intelligence des téléspectateurs pour comprendre.
Et au fait qu'ils vont apprécier le fait d'être pris à revers quoi. C'est pas ce que vous vous attendiez à voir.
Écoutez, je pense que on a fait le tour pour le fond de cette série. De quoi est-ce qu'on va parler la semaine prochaine?
Bah, on va parler des showrunners, dont un qui est quand même un peu l'âme de la série, on peut le dire.
Ouais, effectivement. Après avoir fait un premier tour d'horizon et vous avoir dit tout le bien qu'on pense de Barry, on va s'intéresser aux deux papas de la série, Bill Hader, évidemment, et Alec Berg. Et puis, on reviendra aussi sur les autres membres du cast. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour le premier épisode de cette nouvelle collection.
Merci Clémence.
Merci Clémence.
Wheel of Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochaines émissions ou réécouter celle-ci, rendez-vous sur wheelofcinema.bnpparibas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à Barry. Bonne semaine et à très vite.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify.
Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.